Je voulais vous parler d'éthique avec gratitude, générosité et pardon. Alors, l'éthique, pratiquer les paroles, les actions, le mode de vie juste, correct, moral, éviter certaines actions et certaines paroles et en pratiquer d'autres. Éviter le mensonge, pratiquer la générosité. Donc c'est vraiment la définition de l'éthique. Mais dans le contexte méditatif, on se réfère souvent à la conception de l'éthique de la philosophie bouddhiste. La question qu'on se pose, en fait, c'est est-ce que l'éthique rend heureux? Est-ce que, et j'en avais déjà parlé, est-ce que de faire le bien nous fait nous sentir bien? Ou est-ce que ce sont deux domaines complètement détachés? Alors, exercice. Fermons les yeux. Et pensons à quelqu'un qui nous a fait du bien, qui a fait preuve de générosité, de gentillesse, d'écoute, quelqu'un qu'on aimerait remercier pour ce que cette personne nous a donné, nous a apporté. Ou simplement pour sa gentillesse. Et en lui adressant quelques-uns des remerciements qu'on pourrait lui adresser, et en laissant cette gratitude s'exprimer silencieusement, ok, en ouvrant les yeux, est-ce que c'est agréable? Qui trouve que c'est plutôt agréable? Voilà, ça c'est le fruit du comportement éthique de quelqu'un d'autre. De ses actions, de ses paroles bienfaisantes, bienveillantes. Et ça nous fait nous sentir bien d'y penser. Ça, c'est quand on est le maillon qui reçoit la parole, l'acte bienfaisant, bienveillant. Alors, deuxième moment de réflexion. En évoquant le souvenir d'un acte de générosité, un moment durant lequel vous avez donné quelque chose de matériel, de l'argent, de la nourriture, ou donné quelque chose d'immatériel, rendu service, donné du temps, de l'attention, offert des mots d'encouragement ou de soutien, apporté de l'aide. Que ce soit une personne proche ou moins proche, ça peut être un petit ou un très grand geste. Ça peut être quelque chose de très simple aussi. En vous rappelant où vous étiez ce que vous avez fait exactement. Vous imaginant en train de le faire. Ok, quand vous l'avez fait, est-ce que, en évoquant ce souvenir, c'est neutre, subtilement agréable, agréable ou désagréable pour vous? Pour qui c'est ou agréable ou subtilement agréable? Ok, très large majorité. Désolé d'enfoncer les portes ouvertes, mais démonstration est faite. Recevoir bénéficier des actions, des paroles éthiques, bienveillantes de quelqu'un nous fait du bien. Et nous-mêmes, en produire une, nous fait du bien aussi. Donc, le comportement éthique, les actions généreuses, ça fait du bien. Ça fait du bien dans une chaîne, la personne qui le fait, la personne qui en bénéficie. J'avais prévu une longue pratique sur le remords, mais j'ai laissé tomber. Souvenez-vous d'un moment où vous avez vraiment foiré, mais vraiment foiré, grave. Votre comportement, non. Vous pouvez me croire sur parole, le résultat c'est qu'on ne se sent pas bien. Donc, démonstration est faite aussi par la négative, les mauvaises actions nous font nous sentir mal. Ok. Là, un extrait, je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, celui-là, un extrait, je crois, de The Economist, sur les bienfaits de l'éthique, son lien avec le bonheur. Être éthique est souvent perçu comme le riz brun ou les choux de Bruxelles dans le monde des affaires. Digne est très bon pour vous, mais pas particulièrement agréable. Mais les nouvelles recherches de l'Université du Missouri font voler en éclats de telles idées. Selon la chercheuse, j'ai trouvé une corrélation entre la façon dont les gens répondent aux questions d'éthique et leur satisfaction de vie. En général, les gens qui pensent que ces scénarios éthiques particuliers ne sont pas acceptables ont aussi tendance à indiquer qu'ils sont plus satisfaits de leur vie. C'est-à-dire en contrôlant d'autres facteurs qui, comme l'ont montré les chercheurs, sont également corrélés avec le bonheur, y compris la richesse relative. Donc, si des gens sur des questionnaires ont une éthique plus marquée que d'autres, ils condamnent certains comportements qui leur paraissent pas éthiques, ils sont plus heureux que ceux qui ne le font pas. On sait aussi que la générosité active le circuit de la récompense de la même manière que si on gagnait de l'argent. J'espère que c'est mieux quand même. C'est peut-être le même circuit de la récompense, mais il y a des trucs en plus qui... Mais en tout cas, le signe que c'est associé à du plaisir est là. Et cette intuition, cette impulsion aux actes éthiques est très ancienne dans notre développement. On sait, et c'est complètement adorable, qu'il y a des expériences qui ont été faites sur des tout petits enfants où le chercheur ou la chercheuse laissait tomber quelque chose, il avait plein de choses dans les mains, puis il laissait tomber un truc par terre. Et vraiment, de 2 ans encore en train de ramper pour certains. Et seulement quand, parce qu'ils ont fait plusieurs conditions, la personne qui laissait tomber l'objet faisait mine d'être ennuyée de l'avoir laissé tomber, là, les petits allaient chercher l'objet pour aider cette pauvre personne qui avait perdu quelque chose. Donc, c'est une impulsion qui commence très jeune. Ce n'est pas une idée nouvelle. Aristote, saint Thomas d'Aquin, Bouddha ont tous cette idée que faire le bien rend heureux. C'était très présent dans le bonheur des philosophes antiques, la vertu comme source de bonheur. Le bonheur qu'on appelait, surtout chez Aristote, eudémonique, lié à une vie pleine de sens. Et c'est logique, finalement, ce qui est étonnant, c'est qu'on ait un petit peu perdu cette idée de vue, parce qu'elle est logique, elle tient la route depuis toujours. Il y a des conséquences positives évidentes aux bonnes actions, la satisfaction, le retour de bonne volonté plus tard, et les conséquences négatives évidentes aussi aux mauvaises actions, insatisfaction, culpabilité, honte, représailles, etc. Mais comme je l'avais dit, on en parle peu. Ça commence à changer, mais on en parle peu dans le domaine du développement personnel ou de la psychothérapie. L'éthique bouddhiste qui sert de référence dans le monde méditatif, elle est assez simple. Si je me rappelle bien, il y a juste la juste parole, la juste action et le juste mode de vie. Donc la juste parole, c'est dire la vérité, ne pas monter les gens les uns contre les autres, éviter les commérages, rechercher l'harmonie, ne pas être agressif, impoli, mais parler avec gentillesse. Éviter de perdre son temps à parler de sujets sans importance. Ouais. La juste action, essentiellement, c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper. Et le juste mode de vie, ça consiste à éviter les postes de travail qui nous amènent à ne pas respecter les principes de juste parole et de juste action. Dans certains textes, ils mentionnent explicitement, par exemple, la vente d'armes. Ou la chasse, ou le commerce d'animaux, etc. Donc, certaines activités qui ne seraient pas en adéquation avec cette éthique. C'est une éthique active. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de mauvaises actions, mais aussi de pratiquer la générosité, la patience, la recherche de compromis, etc. Elle culmine dans un sentiment du bien-être. J'adore cette expression, à chaque fois que je la prononce. Un sentiment de bien-être qui découle de l'éthique, qu'ils appellent l'extase de l'irréprochabilité. Je trouve que c'est génial. Là, on a exploré la chaîne de causalité bienveillante, bienfaisante. La générosité qui provoque de la gratitude qui inspire de la générosité, parce que ça aussi s'est montré que quand on vient de bénéficier de la générosité d'autrui, on est plus enclin à être généreux soi-même. Et c'est facile, les psychologues sociaux se sont amusés à faire ces expériences parce que c'est facile de les mettre en place. Quelqu'un vous offre un ticket de loterie gagnant et on n'organise que 30 mètres plus loin, il y a un mendiant et on regarde le pourcentage de personnes qui donnent au mendiant, etc. Et ça marche. La gratitude favorise la générosité. Donc là, il y a une chaîne, un cercle vertueux. Et évidemment, il existe une autre chaîne causale. Faire du mal par des actions ou par des mots, créer de la rancune chez l'autre et du remords chez soi. Et on est confronté, grâce à la méditation, à ces deux aspects automatiquement. Quand on médite, il y a des souvenirs qui remontent à la surface de moments qu'on regrette, de moments où on en veut à quelqu'un qui nous a fait du mal, des pensées. Alors on a toujours cette mémoire humaine sélective, mais on a aussi des moments de satisfaction, de souvenir du bien qu'on nous a fait, et plus rarement, parce qu'on est vraiment sévère avec soi-même, des souvenirs de bien qu'on a pu faire à d'autres. Mais on en a aussi, ça fait partie des choses qui remontent à la surface quand on médite. Et le cercle vicieux du on me fait du mal et donc je suis plus enclin à faire du mal, qui existe aussi. En méditation, le principal remède, si on veut casser la chaîne, c'est la pratique méditative elle-même, parce que ce qui est enfoui remonte à la surface et puis il lui arrive ce qui arrive à tout le reste, c'est-à-dire qu'après un certain temps, il a moins d'impact sur nous. Déjà, on réalise que ça avait de l'importance et petit à petit, ça a moins d'impact sur nous. Et on peut renoncer à certaines rancunes anciennes simplement en méditant et en les voyant émerger, en les observant et en les laissant passer. Mais il existe aussi un remède actif qui s'appelle la méditation du pardon. Et dans la méditation du pardon, on demande pardon d'abord, et c'est extrêmement important et c'est intelligent que ce soit fait comme ça, on demande d'abord pardon soi-même pour des torts qu'on a causés à quelqu'un. Et on se pardonne à soi-même le mal qu'on s'est fait à soi-même dans un deuxième temps. Et c'est seulement dans un troisième temps qu'on pardonne à quelqu'un qui nous a fait du mal. Pour dès le départ apprécier que nous aussi, on est en position de devoir se faire pardonner un certain nombre de choses à soi-même et à d'autres. On dit que si un tort nous est causé le matin, il nous a été causé 1000 fois le soir, parce qu'on se l'est rembobiné en boucle. Et j'aime beaucoup ça, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Une personne nous a dit une chose le matin, et le soir elle nous l'a dit 1000 fois. Et 999 fois sur 1000, c'est nous qui l'avons prononcé dans notre esprit. Donc, la rancune et les remords sont de très bons objets de rumination. On peut planifier la vengeance, on peut argumenter sur la gravité des faits, une espèce d'avocat-procureur intérieur, comme ça. Qu'est-ce que le pardon, version pleine conscience? C'est comme la bienveillance, c'est moins un état qu'un processus. On est en train de pardonner. On pardonne pas forcément, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être abouti. On se met en activité de pardonner, et quand la méditation se termine, peut-être qu'il n'en restera rien, ou peut-être qu'on aura le sentiment d'avoir un peu pardonné à soi-même, d'avoir un peu pardonné à autrui, mais c'est un processus, c'est pas on-off, c'est pas une décision qu'on prend, c'est comme pour la bienveillance, une phrase qu'on prononce, qui nous rapproche, qui nous oriente dans une direction, qui est la direction du pardon, et c'est un chemin dans lequel on avance à notre rythme, avec plus ou moins de sincérité, plus ou moins de facilité. Ça ne nous engage à rien, à part essayer. Ce n'est jamais fait, donc la rancune peut se réveiller à tout moment. C'est un processus continu. On ne le fait pas, très important, on ne le fait pas pour lui faire ce plaisir. Je parle surtout de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, parce que c'est quand même le point culminant de la méditation. On ne le fait pas pour lui faire ce plaisir, on le fait pour se faire ce plaisir à nous-mêmes. C'est une méditation égoïste, avant d'être une méditation altruiste. Et c'est très important, parce que c'est un blocage, sinon, souvent. C'est pour nous qu'on le fait. La question n'est pas « Est-ce que cette personne mérite que je lui pardonne ?» C'est « Est-ce que je mérite que je lui pardonne ?» Parce qu'on a, on a des phrases qui vont venir à notre esprit. Pardonner, ce serait un peu facile pour lui. Facile, facile de quoi? Qu'on arrête d'y penser, qu'on arrête d'en souffrir nous-mêmes. Dans notre fort intérieur, dans la méditation, la personne qui nous a causé du tort n'est pas là. La seule personne qui souffre, c'est nous. Ça n'a pas de sens, ce raisonnement. Mais cette idée, si j'arrête d'y penser et d'en vouloir à cette personne, ce serait un peu trop facile pour elle qu'elle s'en sorte comme ça. C'est absurde, mais c'est un raisonnement qu'on a tous eu, peut-être inconsciemment par moment. important que ça n'implique pas de changer de relation avec qui que ce soit autrement qu'intérieurement. Donc on peut faire un processus de pardon vis-à-vis d'une personne qui nous a blessés, mais on n'est pas obligé de lui dire je t'ai pardonné. On n'est pas obligé de se réconcilier avec elle. On n'est pas obligé de les inviter à dîner, de les mettre sur notre testament. Ça n'engage que nous. Et c'est ça qui est intéressant. Si ça débouche sur les changements relationnels, bah, ok, c'est une possibilité. Mais si ça ne débouche que sur un changement intérieur où on se sent soulagé de quelque chose qui nous pesait, et que la relation avec la personne ne change pas, officiellement on ne lui a pas pardonné, c'est très bien aussi. C'est deux choses qui peuvent rester séparées. Ou pas. Ça n'implique pas de pardonner les actions. Ça n'implique pas de pardonner les actions, mais de changer notre relation aux auteurs. Hein? Et ça, c'est important aussi, parce que on ne peut pas pardonner certaines actions. Elles ne sont pas pardonnables. Et on ne peut pas se forcer à le faire. Elles peuvent rester impardonnables, en fait. Notre relation intérieure ou extérieure, nous l'avons avec des personnes et pas avec des actions. Donc, c'est la relation avec la personne sur laquelle on travaille, c'est pas la relation aux actions. On peut laisser les actions être ce qu'elles sont, c'est-à-dire impardonnables. En fait, on dissocie les actions des auteurs. On admet qu'il y a toujours une part d'ombre, qu'on ne sait pas les conditions qui ont pu les conduire à faire ce qui a été fait. La rancune, elle s'appuie toujours sur un mythe. Généralement, c'est un mythe qui est que les personnes qui nous ont fait du tort sont 100% conscientes et 100% responsables, qu'il ne leur est jamais rien arrivé et qu'il n'y a aucune circonstance qui ait pu les conduire à faire ce qu'elles ont fait. Et il y a toujours un espace entre un auteur et une action. Il y a toujours des circonstances qui les lient. Alors, ça dépend évidemment à quoi on pense, mais je pense que l'expérience de beaucoup d'enfants vis-à-vis de leurs parents, c'est que en ayant l'âge de leurs parents et les mêmes responsabilités, il y a des choses qu'ils reprochaient à leurs parents, qu'ils reprochent moins à leurs parents d'avoir eu le même bagage qu'eux. Qui comprennent différemment certaines actions en ayant plus de compréhension du contexte dans lequel leurs parents ont grandi, dans le contexte dans lequel ils ont vécu leur vie d'adulte aussi. Les actions ne sont jamais uniquement le reflet des personnes qui les commettent, elles sont toujours le résultat d'une longue chaîne d'actions et de conséquences. L'action aussi est figée dans le passé. Elle est figée dans le passé. L'auteur et la victime existent dans le présent et en fait n'existent que dans le présent. Il n'y a que l'action qui est figée dans le passé. La rancune ne permet pas de changer les actions passées parce que rien ne permet de les changer. Une phrase que j'aime bien par rapport à ça. Abandonner tout espoir d'un passé meilleur. Et c'est génial parce que c'est ouais, c'est un vrai problème en même temps, mais c'est exactement ce qu'on doit faire. Puisque le pardon implique les personnes plutôt que leurs actions, il n'implique pas de relativiser encore une fois la gravité des actions ou de nier le dommage causé. Je le redis parce que c'est important. J'ai envie de le redire pour moi. Puisque le pardon implique les personnes plutôt que leurs actions, il n'implique pas de relativiser la gravité des actions ni de nier le dommage causé. Ça, c'est une source de blocage aussi très très fréquente. quand on aimerait se lancer dans cette direction-là, dans la direction du pardon, de se dire que c'est comme si on allait relativiser à la gravité, à la fois de ce qui a été fait et à la fois de notre souffrance, hein. Comme si c'était... Oui, relativiser la gravité, ce qui s'est passé et de ce que ça nous a fait. Et ce n'est pas le cas. On peut reconnaître la gravité des actions, la gravité de leurs conséquences, et s'engager dans une démarche de pardon. Toujours cette distorsion qui nous fait penser que tant que la rancune est présente en nous, par une espèce de raisonnement magique, la personne responsable pourrait se sentir coupable ou continuer de se sentir coupable, et que le jour où elle sent qu'on pardonne, elle pensera que ce qu'elle a fait en fait n'était pas si grave que ça. Et que le mal deviendrait bénin à partir du moment où on pouvait pardonner. Alléger la rancune en soi ne change rien à la gravité des actions. C'est deux choses différentes. Et encore une fois, on n'est pas obligé de dire à qui que ce soit qu'on lui pardonne. Ça peut rester une démarche complètement intérieure. Et c'est parfois mieux que ça le reste aussi longtemps qu'on n'a pas envie de faire autre chose. Ça reste quelque chose dans la sécurité de notre bulle méditative. Et pour moi, c'était une des clés dans cette méditation du pardon, c'est que c'est une direction intérieure qu'on prend, comme pour la bienveillance, qui peut aussi tout à fait ne pas être suivie d'action du tout dans le monde non méditatif. Je ne veux pas dire le monde réel, parce que le monde méditatif est réel. On se donne cette direction du pardon. On observe comment notre esprit, comment notre cœur répondent à cette direction qu'on prend. Comme on le fait avec la bienveillance. On lâche une phrase de bienveillance et on observe comment ça se passe. Là, on lâche des paroles de pardon et on observe ce qui se passe. Il y a trois étapes donc. Demander pardon pour le tort qu'on a causé à quelqu'un. Donc, on ne choisit pas du tout la même personne que celle qu'on aimerait pardonner par la suite. Ça peut être tout à fait différent. On reconnaît juste qu'il nous est arrivé de causer du tort à quelqu'un et on demande pardon à cette personne-là. On se pardonne, c'est déjà un gros morceau, pour le tort qu'on s'est causé à soi-même. Et finalement, on pardonne à quelqu'un d'autre. Comme pour la bienveillance, on peut prendre la direction du pardon et l'émotion peut suivre ou pas suivre du tout. Et comme pour la bienveillance, c'est pas grave si elle suit pas. C'est l'intention qui compte. En exprimant le pardon, une phrase de pardon, on peut ressentir le pardon, on peut ne rien ressentir du tout, ou on peut ressentir une rage meurtrière. Et c'est OK. On prend la direction, on prend ce cap du pardon et on ressent une rage meurtrière. Ben, c'est comme quand on prend la direction de la bienveillance avec quelqu'un et qu'on ressent une rage meurtrière. On garde le cap des mots et on laisse les émotions vivre leur vie d'émotion. Elles n'ont pas besoin d'être en accord avec ce qu'on dit tout le temps. Kant, une citation de Catherine Ponder, quand vous éprouvez de la rancune pour quelqu'un, vous êtes lié à cette personne par un lien émotionnel qui est plus solide que l'acier. Quand vous éprouvez de la rancune pour quelqu'un, vous êtes lié à cette personne par un lien émotionnel qui est plus solide que l'acier. Le pardon est le seul moyen de dissoudre ce lien et de vous libérer. Je trouve que c'est une très 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 jolie citation. La raison pour laquelle j'ai pas envie de faire une méditation du pardon, c'est que c'est pas une méditation qu'on impose déjà, c'est une méditation qu'on doit choisir de pratiquer soi-même. Et puis, c'en est une qui nécessite qu'on puisse parler ou poser des questions, échanger. Et là, les deux conditions sont pas du tout réunies. Ce serait une imposition par une contrainte qui serait pas forcément bienvenue et on n'aurait pas l'occasion d'en parler ensemble. Je peux organiser un jour ou l'autre une soirée consacrée au pardon et à ce moment-là, les personnes qui ont une folle envie de pardonner viennent, elles sont consentantes et on pardonne ensemble et on en parle. Je peux vous donner une idée par contre, si vous voulez, des phrases qu'on utilise ou des mots qui sont utilisés dans cette méditation-là. Parce que alors évidemment, il y a les formes traditionnelles, mais dans les formes modernes, on ajoute des petits mots qui facilitent un peu le travail, je trouve. Pour demander pardon à quelqu'un, en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé mes actions, en évoquant les personnes ou la personne, et on peut en évoquer plusieurs. Et ensuite, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, ou simplement je te demande pardon intérieurement pour chaque personne à laquelle on pense. Ça peut être une seule. Et le ton n'a pas besoin d'être coupable ou honteux, ça peut être tout à fait un ton affirmé et bienveillant, parce que c'est un acte de bienveillance de demander pardon. C'est justement pas, en fait, la mauvaise personne qu'on est, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là. Puisqu'on sépare les actions des auteurs pour les autres, on le fait aussi pour nous. C'est une reconnaissance de notre capacité à demander pardon, ce qui est généreux et bienveillant à une personne qu'on a lésée. Se pardonner à soi-même, généralement on évoque des torts qu'on s'est causés à soi-même, des paroles, des actions qui ont nui à notre bien-être, les moments où on est trop dur envers soi, les moments où on n'a pas pris soin de soi. Et on répète intérieurement, en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé mes actions, je me pardonne pour ces moments où je n'ai pas assez pris soin de moi. On peut aussi émettre un peu de bienveillance, je me souhaite d'être gentil avec moi-même à l'avenir. Tout cette direction-là. Et une fois que on a pris soin pour soi-même de préfacer ce qu'on dit par « en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé mes actions », on commence à être prêt pour utiliser les mêmes mots pour une personne à qui on en veut et à qui on aimerait pouvoir pardonner. Donc, on pense à une de ces personnes-là, en reconnaissant la part de colère, de peur, d'ignorance, de confusion qui ont motivé tes actions. On pense à elle. Je te pardonne pour ces moments où tu m'as fait du mal, volontairement ou involontairement. Je te pardonne pour ce que tu as fait. Ou simplement, je te pardonne. Et comme on le fait pour la bienveillance, on laisse aussi ces mots résonner pour voir à quoi cette direction du pardon correspond en nous. Est-ce qu'il y a un écho émotionnel? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'on n'est pas du tout prêt en tout cas pour cette personne-là, pour ces actions-là. Et on écoute ce qu'on ressent et on en tient compte et on interrompt la méditation si on doit l'interrompre. Enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas une performance qu'on doit accomplir. C'est pour nous alléger de quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Donc, c'est par excellence une méditation dans laquelle on doit être à l'écoute de ce qu'on ressent et être bienveillant envers soi-même et ne pas exiger de nous-mêmes quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Et on peut s'entraîner avec, pas prendre les gros tout de suite, prendre les petits poissons d'abord. Et quand ça fonctionne, quand on sent qu'on prend cette direction, on sent vraiment un relâchement, comme si on desserrait quelque chose qu'on serrait, émotionnellement, qui est super libérateur quand on le sent, quand c'est possible, quand c'est le bon moment, quand les conditions sont réunies. Ensuite, c'est un moyen de travailler la rancune, la méditation de bienveillance avec la personne difficile. C'en est un aussi. C'est aussi un petit peu ce qu'on fait, parce qu'on pense à une personne difficile, peut-être à cause de ses actions. Mais on se concentre que sur la personne elle-même et on laisse de côté les actions et on lui souhaite quelque chose de bon. C'est encore plus facile parfois la méditation de compassion pour une personne difficile, parce que si on la sait en difficulté, alors ou bien on a la joie mauvaise qui domine, ou bien alors on sent la vulnérabilité et puis ça nous attendrit aussi un peu. De la même manière, la joie partagée. C'est plus facile de se réjouir du bonheur de quelqu'un qu'on n'aime pas parfois que de lui envoyer de la bienveillance, simplement. Donc ce n'est pas la seule voie, c'est la plus explicite. On affirme vraiment ce qu'on aimerait être capable de faire. Mais il y a vraiment tout un cadre à poser que j'ai essayé de vous donner là avec ce que j'ai dit avant de parler de la méditation. Sur la vision qu'on a de la rancune comme étant quelque chose qui nous concerne en premier lieu nous-mêmes, et le soulagement, on en bénéficiera nous-mêmes exclusivement, pas la personne qui nous a nui. En tout cas, à la base. Après, libre à nous de transformer le pardon méditatif en un dialogue avec la personne en question, mais c'est pas l'objet de la méditation. Pour le pardon, il y a juste deux, parce que je me rappelle un petit peu comment j'avais abordé la chose. Deux écueils auxquels il faut être attentif. Le premier, c'est d'ajouter ça à la liste des choses qu'on devrait être capable d'accomplir. Ce qui nous ramène un petit peu, parce qu'on est jamais très. Enfin, je parle pour quelqu'un qui est de culture chrétienne. On n'est jamais très loin de cet impératif de il faut pardonner, qui est un truc horrible quand il est imposé, voire destructeur. Et en fait, il faut pas. C'est un peu comme pour la vision de l'éthique en général dans la perspective méditative où on le voit comme un moyen d'être heureux, pas comme un moyen d'être un bon citoyen ou un bon chrétien ou un bon. Voilà, juste une façon. Il se trouve que pour être heureux, respecter les autres, ça aide beaucoup. Et là, c'est un peu la même chose. C'est pas un truc qu'il faut qu'on fasse, qu'il faut qu'on soit capable de faire. C'est une option qu'on a si on a le sentiment que la rancune nous pèse et que ça pourrait alléger le fardeau de la rancune pour nous, si on a l'impression de souffrir nous-mêmes de la rancune qu'on porte. Ce n'est pas une nécessité morale, un impératif, ni même une performance méditative si on veut prendre un autre angle qu'il nous faudrait être capable d'accomplir. Ce n'est pas du tout ça. C'est complètement un choix qu'on prend quand on pense que ça se mettra au service de notre bien-être psychologique. Et c'est la motivation doit absolument être égoïste. C'est important. L'autre chose, c'est que si on trouve l'idée intéressante, comme pour la méditation de bienveillance avec les personnes difficiles, tout le monde, quand on parle de cette méditation, en tout cas c'était mon cas, pense au Big One ou aux Big Ones. Et comme d'hab, il ne faut pas commencer par les Big Ones, parce que ça va être la catastrophe. Il faut déjà se demander si en prenant des gens qui nous ont fait du mal, mais avec qui on n'a pas une relation, on n'a pas une relation proche, voilà, des gens qui nous ont fait du mal dans des circonstances précises, avec lesquels on n'a pas une longue relation, etc., qui n'ont pas la même intensité relationnelle que les big ones. Commencer par cela et voir si ça marche. Et comme dans la méditation de bienveillance, si ça marche avec les petits poissons et que ça nous fait du bien et qu'on a l'impression que ça nous fait avancer, alors on peut commencer à envisager à un moment ou à un autre d'introduire un gros poisson. Mais c'est une méditation où on se fait du bien à soi, c'est une méditation égoïste, donc on prend le temps de tremper le pied dans l'eau du pardon pour voir si la température nous convient, en portant d'abord une bouée. Bref, on fait les choses graduellement. Voilà ce que je voulais ajouter. Parce que je me suis rappelé qu'en fait, je me suis rappelé de ce qui m'avait traversé la tête quand moi j'avais entendu parler de cette méditation-là. Je me suis dit, peut-être vous aussi, donc il fallait que je précise ça. Bonne nuit. Rappelez-vous que vous pouvez changer peut-être l'heure de votre réveil. On se voit seulement à cette heure lamentable et décadente qu'est 6h30 pour les personnes qui veulent méditer 1h30. Et à cette heure carrément qui ferait bondir certains de mes maîtres de méditation, 7h pour les personnes qui n'ont pas envie de méditer 1h30. Voilà. À demain.